Le jour d'après, c'est le podcast qui libère la parole. Chères auditrices, chers auditeurs, vous allez écouter la partie 2 de l'épisode 4, deuxième saison. Cet épisode 4 évoque le harcèlement scolaire, les troubles mentaux, les tentatives de suicide et le mal-être chez les adolescents. Selon une enquête IFOP, en 2023, un élève sur 5 aurait subi du harcèlement scolaire, 53% au collège, 28% en primaire, 6% au lycée et 13% à plusieurs moments de sa scolarité. Le harcèlement scolaire se caractérise par des moqueries, des insultes, le rejet, l'isolement, jusqu'à la violence physique. La plupart du temps, ce harcèlement pousse à une phobie scolaire, un mal-être physique et mental, jusqu'aux tentatives de suicide de nos enfants. Souvent, l'élève harcelé se tait. En tant que parents, nous devons redoubler de vigilance, être à l'affût des changements d'humeur, d'agressivité, de repli sur soi, d'automutilation. Surveillez aussi les réseaux sociaux qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. S'il est compliqué pour vous d'en parler à l'équipe pédagogique de votre établissement ou à vos proches, ne restez pas seul. Si vous êtes victime ou témoin de harcèlement, contactez le 30 18. À la fin de l'année 2020, les tentatives de suicide ont augmenté de 28%, surtout chez les jeunes filles. Un constat alarmant d'une détresse de nos jeunes. Il est important d'être à l'écoute de leurs craintes et de leur angoisse. De prendre le temps avec nos enfants, d'installer le dialogue pour libérer la parole. Au moindre signe, consultez, allez aux urgences ou contactez le 3114. Chaque histoire est différente, mais la vôtre et celle de vos proches sont importantes. Sortez de votre isolement. Le jour d'après, c'est une fiction inspirée de faits réels. Place à l'écoute, épisode 4, partie 2, le carnet bleu. Tu avais deux amis, me dis-tu. Cela est peu à ton âge. Parle-moi de ce que tu as subi de la maternelle à la quatrième. Parle-moi de ce que tu as vécu pendant le confinement. Pendant que ta mère était malade.
En maternelle, Amira me frappait, me volait mes amis, m'isolait, me faisait chanter. Je me souviens même qu'une fois, elle m'avait volontairement poussée contre un poteau et mes lunettes sont tombées et se sont cassées. Elle avait juste dit « T'es juive, tu pourras en racheter ?» Je ne pratique absolument aucune religion. Ma famille est culturellement juive, de ton côté. Elle était ma meilleure amie et elle me harcelait. Je n'arrive pas à comprendre la méchanceté. Je me considère comme étant une bonne personne. Alors, je restais amie avec elle. Car pour moi, en tant qu'enfant, il faut laisser une deuxième, une troisième, une cinquième chance aux autres. Et peut-être qu'un jour, ils changeront. Mais elle n'a pas changé. En primaire, elle volait toujours mes amis, m'isolait toujours, mais elle ne me frappait plus. Elle n'était plus ma meilleure amie. Elle m'insultait, surtout de pute. J'avais 8 ans. Qu'est-ce que c'est une pute ? Je pensais que c'était le diminutif de putain. Papa disait beaucoup ce mot. Mais qu'est-ce que ça veut dire, putain? Elle t'insultait pour m'atteindre. Elle disait que t'étais moche, débile, une pute comme moi. Je ne disais rien. Je n'imagine pas ce que cette fille a pu vivre pour être à ce point mal dans sa peau. Mais j'ai vite arrêté de la plaindre. Elle a aussi commencé à raconter des rumeurs, comme cette fois où elle a dit que j'avais dit que la mère de ma meilleure amie était grosse. Je n'avais rien dit. Mais ma meilleure amie l'a cru. Et sa mère est venue me menacer à la sortie de l'école, devant tout le monde. J'avais 9 ans, j'étais une enfant. Mais le pire du harcèlement s'est passé au collège. Je lui avais demandé à la direction de l'école primaire qu'elle ne soit jamais dans ma classe. Mais dès la 6e, on se retrouve dans la même classe. Je pensais qu'elle avait changé, c'est ce qu'elle faisait croire. Elle était redevenue ma meilleure amie.
Ah, cette gamine! On ne prend pas autant conscience des dégâts que tout cela peut faire au début. On pense que ce sont des histoires de petites filles, que ça va s'arranger. Je pense aussi que c'était facile pour moi de fermer les yeux car je pensais que sa mère était ma copine. Même si je lui en parlais régulièrement pour qu'elle recadre sa fille, elle balayait les choses en minimisant et en riant. À l'exception d'un jour où elle m'a avoué que sa fille était méchante. L'histoire du poteau, je m'en souviens très bien. Tu avais eu un œil au beurre noir, en plus de tes lunettes cassées. Je n'ai jamais plaint de cette gamine. J'ai découvert avec le temps qu'il y a des personnes qui aiment faire du mal, sans forcément vivre l'enfer chez eux. C'est très dur de constater le mal chez un enfant. Mais elle était juste mauvaise, et à part s'éloigner d'elle et de toutes ses fréquentations, il n'y avait pas d'autre solution. À ce jour, cette gamine est loin. Elle est respectée en tant que petit caïd, parce qu'il vaut mieux être son ami que son ennemi. Elle est en échec scolaire, en échec de tout. Mais toi, mon amour, tu es belle, tu es douée, tu es respectée parce que tu es une vraie amie. Tu es là pour les autres. Alors malgré la souffrance qu'elle t'a infligée, aujourd'hui et demain, c'est elle qui souffrira plus que toi face à sa vie de merde. Parle-moi du collège et de ce qu'elle t'a fait, de ce harcèlement, plus en détail, et de ce qu'il s'est passé pendant le confinement, car je crois que tu as été aussi harcelée. J'essaye d'insister pour que nous ne survolions pas ce sujet. C'est bien trop grave.
Au collège, Amira s'était fait de nouvelles amies, aussi méchantes qu'elle. Aussi, d'autres amies qui étaient aussi mes amies, mais qui avaient plus peur d'Amira, se sont alors rangées de son côté. Un jour, je me suis retrouvée au milieu de la cour de récréation, seule, encerclée par Amira, ses amis, et du coup, mes amis. Paysanne avec ta salopette! Ma maman m'avait pourtant dit que c'était joli. Clocharde, en regardant ma chaussure trouée. Michto, parce que j'avais pas les moyens d'offrir un beau cadeau de Noël à mon petit copain de l'époque. Pauvre, parce que mes parents avaient moins d'argent que les autres. Polygame, hypocrite, pute, ça n'avait pas de sens. J'étais terrorisée. Les crises de panique sont arrivées à partir de ce moment-là. J'ai aussi eu une soirée pyjama avec ces filles. J'étais contente. C'était la première fois que j'étais invitée quelque part. Mais je me suis trompée. Je n'avais rien vu venir. C'était un piège. Je suis rentrée chez moi en larmes, traumatisée, des bonbons, des raisins collés dans mes cheveux et des bleus partout sur le corps. Elle m'avait maltraitée, harcelée et hurlé que je méritais de mourir. Pendant le confinement, ça s'était un peu calmé. C'était des stories Instagram, des messages et de nouveaux groupes qui avaient comme centre d'intérêt de parler mal de moi. Mais je ne m'y intéressais plus. Je faisais une dépression, alors je m'en foutais de tout en soi.
Salomé était rentrée de cette soirée pyjama comme un zombie. C'était le jour de la fête de son anniversaire et je lui avais demandé de rentrer tôt pour m'aider à la préparer. Elle était partie se coucher et j'avais tout fait seule. Je m'étais mise en colère en lui disant que je lui avais permis de faire cette soirée à la condition de m'aider le lendemain. Elle m'avait rien dit. Deux jours plus tard, le collège m'avait contactée, me disant que Salomé voulait mourir et il m'avait raconté cette soirée guet-apens. Instinctivement, on a envie de tout saccager, de taper, de hurler, d'insulter ces sales gamines et leurs parents de merde. Mais on doit se tenir. Il y a des lois. On croit en la sécurité à l'école. Et on pense que le bien sera fait. Mais il n'a jamais été fait. Mon enfant n'a pas été protégé. Et j'ai dû la changer de collège. Aujourd'hui, elle a des séquelles. Je m'en veux de ne pas avoir porté plainte. Comment as-tu vécu mes différentes implications pendant le cancer?
Au début, quand tu as commencé à être dans la communauté, je t'ai soutenue. J'ai participé. Je faisais des challenges avec toi. Je te filmais, je prenais des vidéos. Notre vie était devant la caméra. J'avais l'impression qu'on jouait un rôle, et que c'était faux. Tout n'allait pas aussi bien que tu le montrais. Mais tu avais l'air épanoui. Alors, je t'ai laissé faire. En étant honnête, je n'ai jamais aimé cette communauté. Je la trouvais si toxique. Ces femmes étaient méchantes entre elles, pleines de faux sourires, et elles postaient des posts déprimants tout le temps. Je trouvais tout ça pas si positif, mais tu te sentais dans le besoin de toutes les aider. Mais je pense que si tu te donnais autant de mal à les aider, c'était en fait pour ne pas penser, ne pas réfléchir, que toi aussi tu allais mal. Tu ne voulais pas t'aider, maman.
En lisant ces lignes, j'ai un électrochoc. J'ai toujours beaucoup aidé, écouté. Je suis de nature protectrice. Je déteste l'injustice et j'ai tendance à monter au front, à montrer les dents, mais pour les autres, pas pour moi. Tu ne voulais pas t'aider, maman, cette phrase est si vraie. Tellement bien analysée pour une ado, je n'en reviens pas. J'ai laissé ma fille de côté pendant cette période parce que je pensais qu'elle n'avait pas envie d'être avec moi, que c'était normal, que c'était l'âge. Et que le confinement coincé avec ses parents dans un petit appartement était vraiment invivable pour elle. Alors je l'ai laissée tranquille et chacune a fait sa vie. C'était une énorme erreur de ma part. Nous allons parler de l'été de la séparation avec ton papa si tu veux bien. Je te laisse l'aborder comme tu le souhaites, factuellement, émotionnellement, comme tu veux.
Émotionnellement, à cette période, je me sentais vide. Je ne pensais à rien. J'étais très mal. J'ai encore tenté de me suicider avec des médicaments. J'étais en vacances avec une copine, Natacha, avec qui ça se passait pas très bien. Je me suis sentie seule. On s'était en plus disputé, toi. Le pilier de ma vie ne m'adressait plus la parole, parce que j'avais fait des conneries. Alors, je me suis sentie abandonnée. Je ne sais pas aussi si c'est à cause de mon père, car en théorie, votre séparation m'a rendue heureuse. Je l'attendais depuis des années. Je t'en avais d'ailleurs parlé.
Cela faisait des années que Salomé me demandait de partir, de quitter son père. Je voyais qu'elle m'en voulait de plus en plus de rester et de subir. Je lui mentais beaucoup, en positivant la situation, en protégeant son père pour qu'elle garde une belle image de lui. Elle n'était pas dupe. Elle entendait tout, observait tout, analysait tout. Lorsque j'ai su pour cette tentative de suicide 10 jours plus tard, j'ai ressenti un choc en moi si violent que j'ai répondu par la violence. Je me suis mise en colère, parce qu'elle a voulu partir, m'abandonner, me laisser seule, avec toute la merde que je venais de vivre.
Mon enfance, c'est ce qui me tient debout, qui me donne le sourire et qui me fait avancer pour qu'elle soit fière de moi. Tous les jours, je cherche à faire le bien, à être exemplaire, mais pour elle. On est une team. Si elle n'est plus là, je ne suis plus là. Elle est ma raison d'être. Sans elle, la vie n'aura plus d'odeur, plus de saveur, et je serai incapable de me relever. Et je veux vivre. Alors elle doit se battre elle aussi, pour elle, pour nous. Nous avons commencé une vie à deux. J'ai repris le travail, tu as fait ta dernière année au collège. Comment as-tu vécu ces changements ? Il y a aussi l'arrivée d'une personne dans ta vie, Vincent, si tu veux bien en parler.
J'étais contente que tu retournes travailler, pour que tu me laisses tranquille et que tu ne sois plus sur mon dos, en étant honnête. Ma dernière année de collège, j'ai rencontré Vincent, qui est depuis 2 ans, toujours mon petit copain. J'ai mis du temps à m'ouvrir à lui, ce n'a pas toujours été facile, mais aujourd'hui il comprend et est là pour m'aider, et je me sens moins seule.
Bon, c'est vrai, je suis une vraie maman juive, comme on dit. Une vraie louve protectrice. C'est mon enfant unique, mon sang, ma chair. Elle a 16 ans, mais je lui coupe toujours ses knackis en 4 pour pas qu'elle s'étouffe. J'essaye de la laisser un peu vivre sa vie et j'en suis heureuse, mais j'ai peur de tout. J'adorerais qu'elle sorte avec un casque. Je vis avec la peur de la perdre tout le temps. Je respire que quand je suis avec elle. Pourquoi as-tu déchiré les pages du carnet bleu, symbole de dialogue avec moi?
J'étais énervée, en pleine crise de nerfs. Je me sentais incomprise et seule. Je voulais te le montrer. Te montrer toute la colère que j'avais en moi. Ça m'a rendue triste quand la colère est partie, parce que ce cahier bleu était symbolique.
Je n'ai rien à dire de plus. Je l'ai découvert par terre, déchiré, anéanti. La symbolique était forte. Je n'ai pas voulu recoller. Je n'ai pas voulu en acheter un autre. Le cahier bleu n'était plus. 1 an et demi plus tard.
Maman, je suis désolée. Je crois qu'il faut qu'on aille à l'hôpital.
Tout devient flou, tout devient mécanique. Mettre des chaussures, mettre un manteau, prendre son sac, la carte vitale, les plaquettes vides, ne pas pleurer, ne pas craquer, ne pas hurler, gérer, soutenir, contenir sa peur, se dissocier. Faire les quelques mètres qui nous séparent des urgences, des mètres qui paraissent des kilomètres.
Maman, dis-moi que tu m'aimes. Maman, je suis désolée. Maman, tu m'en veux ? Maman, dis-moi que tu m'aimes. Maman ne me laisse pas. Maman, j'ai peur. Maman, j'ai froid.
Arriver enfin à la porte des urgences. Y arriver et crier. Faites-la vomir ! Elle a pris des médicaments ! L'infirmière qui demande pourquoi. Mais ma bouche ne veut pas le dire. Le mot ne sort pas. Il est trop réel, trop douloureux. Salomé le dira. Parce que tout est trop lourd, trop dur. Parce que ça fait mal. Parce qu'il est invivable d'avoir mal comme ça dans son cœur et dans sa tête. Ma terre à moi, elle tourne trop vite. Je tangue, je m'accroche au lit, à mon manteau, à mes poches, mais il fait trop chaud. N'arrive plus à respirer. La crise d'asthme se déclenche. La toux restera 24 heures et un épais brouillard se loge dans mon cerveau pour ne plus repartir. Tout s'enchaînera pendant 24 heures. Une nuit sans dormir, une journée sans manger, des allers-retours aux toilettes, les intestins qui lâchent. Des heures à veiller, à tenir sa main, à poser la mienne sur son corps, voir s'il se soulève, si son souffle est régulier, si elle est toujours avec moi. Une nuit à soulager son bras perfusé et scarifié de toutes parts. L'odeur de l'angoisse sur la peau. Les yeux qui se ferment mais se réouvrent immédiatement. Ce brancard qui nous sert de lit de parents, qui sent le vide, le néant, la mort. Ces cris dans les box voisins qui te rappellent où tu es. La culpabilité qui ronge, qui écrase tout sentiment. La peur qui fige, qui serre la mâchoire, empêchant les mots rassurants de s'exprimer. Tout se mélange. Les flashs d'images se bousculent dans les urgences, l'ambulance, l'hôpital, le service psychiatrique, le bal des infirmières, les gentils et les aigris, les infirmiers, les souriants et les taciturnes, la salle d'attente qui accueille les inquiets, les présents. De l'amour dans les regards, dans les caresses, de l'amour dans cette inquiétude collective. Salomé se réveille, le rose poudré rhabille son teint. Elle est froide, elle en a marre, elle a faim, mais rien ne lui convient. Je vais lui chercher à manger, mais je tombe à côté, alors j'y retourne pour la satisfaire. On attend des mots de regret, mais qui ne viendront pas. Le corps médical tranche et décide qu'elle doit être hospitalisée. Ils font l'erreur de lui dire que c'est moi qui décide de signer ou non son hospitalisation. Dans un centre loin, loin de nous, de ses amis, de son lycée, de son chien et de son chat. C'est ce qu'elle me dit. Isolée de ceux qu'elle aime. C'est ce qu'elle nous crie. pour une durée indéterminée car elle est dangereuse pour elle-même. À la prononciation de cette décision, la rage ressurgit, les pleurs, le rouge revient, son visage se déforme à nouveau.
Si tu m'aimes, tu peux pas me faire ça. Tu veux m'abandonner, te débarrasser de moi. Tu es égoïste, tu veux vivre ta vie sans moi. Tu ne vas pas signer. Tu ne vas pas me faire ça. Je le sais.
Une heure plus tard, je prends un stylo et je signe. Une décharge, et pas l'hospitalisation. Ce stylo qui signe la plus grande des décisions. Celle qui charge de maintenir son enfant en vie alors qu'il ne le souhaite pas. Celle d'une prise de risque que je ne devrais pas prendre. Parce que je l'aime, je veux la garder près de moi. Parce que je l'aime, je veux qu'elle vive, qu'elle soit heureuse. Parce que je l'aime, je ne suis pas capable de vivre sans elle. Cette pensée est insoutenable, intolérable, invivable. Parce que je l'aime, je veux prendre les meilleures décisions pour elle. Mais quelles sont les bonnes décisions? Pourquoi, alors que je ne suis pas médecin, il m'incombe de signer, de choisir, de porter cette responsabilité, de miser sur la vie, la survie ou la disparition de mon enfant? Quelques jours plus tard, un diagnostic psychiatrique tombe. Salomé a un trouble de la personnalité borderline. TPB, dans le jargon des troubles mentaux. Son psychiatre me conseille de lire, de me renseigner sur le sujet. Nous partons immédiatement à la FNAC et j'écoute tous les podcasts sur le sujet. Je contacte des personnes ayant le même trouble. Je cherche l'espoir. Je cherche à être rassurée. Mais rien ne m'apaise. Son mal a pu se développer à cause du climat instable et insécure de son enfance. Cela peut également être héréditaire. Elle coche un à un les différents critères. La peur de l'abandon, des problèmes relationnels, se sentir déconnecté, parano, l'impulsivité, la colère, les changements d'humeur. Elle se sent vide. Elle se fait du mal. Scarification, tentative de suicide, problèmes alimentaires. Beaucoup de choses s'expliquent. Son médecin lui donne un premier traitement. On teste. Ça peut mettre du temps. On va chercher un traitement. Mais avons-nous ce temps? Il y a 10 000 questions. Il y a 10 000 remises en question. Il lui fait aussi promettre de ne pas se suicider pendant un mois, renouvelable. C'est un engagement auprès de lui qui joue sa carrière professionnelle en ne l'hospitalisant pas et envers moi, sa mère, qui ait signé la décharge à sa demande. Salomé retourne au lycée le lendemain avec le bleu de sa perfusion et les idées noires qui persistent à polluer son crâne. Moi, je m'effondre. Je prends quelques jours pour être là si jamais. Je pleure. Je suis toute seule, personne pour me voir. Je sens que je vais sombrer. J'ai besoin d'aide pour être à la hauteur. Il va falloir parler. Ma fille me dit qu'on n'a pas l'habitude de se confier dans la famille, qu'elle n'a pas été élevée en exprimant ce qu'elle ressent.
Mais maman, toi tu ne dis pas ce que tu as vraiment en toi.
Alors il est peut-être temps, pour nous. Je prends rendez-vous avec un psychiatre pour moi, et j'écris. Moi c'est ma façon de dire. L'écrire, le dire, le rendre moins tabou. Ce mot que j'aurais voulu ne jamais prononcer, ce mot trop réel et douloureux. Salomé a fait une tentative de suicide, ce n'était pas la première, ce ne sera peut-être pas la dernière. Peut-être qu'elle recommencera. Va falloir apprendre à vivre avec cette éventualité, pour l'instant c'est invivable, je le refuse. Un mois plus tard, Salomé ira très mal, mais va me le dire. Elle accepte que je l'emmène aux urgences, elle accepte d'être hospitalisée. Quelques jours plus tard, une place sera libérée. Je me sentirai amputée. La douleur sera à vif. Je vais me dissocier pour passer cette étape de vie, être forte pour elle. Rationnellement, je sais que l'hospitalisation est une bonne chose pour elle. Émotionnellement, je suis ravagée. Je m'entends dire à mon psychiatre que sans elle, je n'ai pas envie de vivre. Je lui dis sans émotion, avec détachement. Je l'ai laissée dans ce centre et une partie de moi ne vit plus. Il observe, il survit, il subit. J'ai plus envie de rien. Juste qu'elle rentre et qu'elle aille mieux. Il n'y a plus de larmes, je suis partie ailleurs. J'attends qu'elle revienne. Je te laisse le dernier mot sur ce qu'il vient de se passer. Si tu souhaites raconter, exprimer ce que tu as ressenti ou ressens aujourd'hui. Ce que tu souhaites pour ta vie, nos vies.
Je souhaite être heureuse. Que toi aussi tu le sois. Et que nous soyons bien entre nous. On m'a diagnostiqué un trouble de la personnalité borderline, ce qui explique mes comportements. Excès de colère, tentative de suicide, automutilation, ma distance avec mes émotions qui sont pourtant omniprésentes. Le 26 novembre dernier, j'ai tenté de me suicider, une énième fois. Il y a eu certaines tentatives dont tu ne connais même pas l'existence, et je refuse d'en parler. Cette fois, je te l'ai dit, et tu m'as emmenée à l'hôpital. J'avais peur que tu m'en veuilles, plus que tu m'aimes. J'ai eu peur, mais sûrement pas autant que toi. Je m'excuse de l'avoir fait, mais je ne regrette pas mon geste. Depuis ma tentative de suicide, nos communications se sont améliorées. Si j'ai un problème, des idées noires, je communique mes pensées, même si c'est dur à entendre pour toi.
Épisode joué par Nora dans le rôle de Salomé et Karina B dans le rôle de Catel. Écrit et imaginé par Nora et Karina B, produit par l'association Demain. Épisode dédié à ma fille, mon adolescente, qui malgré son début de vie difficile se bat pour trouver un sens. Cet épisode est dédié aux victimes de harcèlement, aux enfants et adolescents qui ressentent un mal-être quotidien. À vous aussi les parents souvent dépassés et démunis. À tous ces ados partis trop tôt parce que tout était trop sombre, trop dur. Parce que la méchanceté n'a pas d'âge, ni de limite. À leurs parents.